épisode 93 du podcast Alimentation. Aujourd'hui, je te parle de vin, de spiritueux et des dernières nouveautés de la microbrasserie Ross Stall et vignoble Coblotte de Saint-Bruno de Montarville. Et c'est parti! Salut le foodie, bienvenue au podcast Aliment Passion, ici Roger, ton crazy chef. Va tout de suite là, liker nos pages de médias sociaux, que ce soit Facebook, X ou Instagram. Tu vas voir toutes les photos de ce que je te parle aujourd'hui, ainsi que toutes les dernières nouvelles quant au podcast. Eh bien aujourd'hui, là, un podcast là, tout en liquide, donc je vais te parler de plusieurs types d'alcool différents du Québec. Ça va te donner une chance là, de faire des réserves pour le temps des fêtes qui s'en vient. On essaie toujours d'encourager nos producteurs locaux. Évidemment, le temps des fêtes est toujours un superbe moment dans l'année pour faire part de nos découvertes à notre famille et à nos proches. Là. Alors, on va commencer tout d'abord avec le premier bloc. On va parler de vin du Québec. Tout d'abord, je vais te parler d'un vin blanc. C'est un vin du vignoble Domaine de Lavoie. C'est le vin blanc de millésime 2021, qui s'appelle tout simplement là, le Domaine de Lavoie blanc. Évidemment, les bouteilles traditionnelles de vin de 750 ml en vente à la SAQ à 16,20 $. C'est aussi disponible en épicerie, ce qui est le cas de plus en plus là, pour beaucoup de vignobles québécois qui commence là, à être assez présent dans les épiceries. Je pense que c'est peut-être une très bonne façon de se faire connaître un peu plus là, que d'essayer de se battre avec là, des immenses sélections là, qu'il y a dans les SAQ, de commencer là, de tranquillement là, dans les petits côtés vins des épiceries. S'il y a une belle sélection de vins québécois, je pense que ça va être tout à l'avantage de nos vignerons. Donc, le vin blanc du Domaine Lavoie millésime 2021 là, est composé de trois types de cépages différents, donc 50% de Vidal, comme c'est souvent le cas là, pour les vins blancs au Québec, 25% de Cayuga et 25% des Ona. C'est une bouteille qui contient quand même un 12,5% d'alcool. Au niveau des arômes, on y va là, au nez, on voit beaucoup d'agrumes, quelque chose d'assez floral, quelque chose de légèrement végétal, une bouteille là, avec une belle acidité, un vin blanc quand même assez sec, quand même très généreux, très frais. Ce que le Domaine Lavoie a à dire donc sur leur vin aussi, là, c'est que le blanc de Lavoie est composé d'un assemblant de cépages produits au domaine, exprimant un terroir spécifique et généreux. Ce blanc demi-sec et très fruité accompagne particulièrement bien le poisson, les sushis et les viandes blanches en sauce. Il est également parfait à l'apéritif. On recommande évidemment de le boire entre 6 et 8 degrés. Toujours faire attention sur les vins blancs, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, la température des vins en général au Québec, on a une espèce là, de manie de prendre le vin blanc beaucoup trop froid et le vin rouge beaucoup trop chaud. Je pense que je t'en avais déjà parlé dans un épisode antérieur. Un petit truc là, qu'on m'a donné, là, qui est quand même assez simple. C'était la règle du 30 minutes. Donc, tu gardes toujours ta bouteille de vin blanc au frigo. 30 minutes avant de la servir, tu la sors. On va avoir le temps de baisser là, de quelques degrés et trouver là, une température qui est beaucoup plus proche du 6 à 8 degrés là, en moyenne. Même chose pour le vin rouge, qu'on garde toujours température pièce. Pas boire ça à 22-24. Donc, tu mets ça une demi-heure avant de la boire au frigo. Donc, le vin rouge, une demi-heure au frigo, va avoir le temps de baisser un petit peu de température et être un peu plus là, dans les alentours de 14 à 18 degrés, ce qui est en moyenne là, la température recommandée pour les vins rouges. Donc, on va pouvoir vraiment là, déguster ces produits-là au maximum de leur saveur. Donc, vraiment, là, un vin blanc là, du Domaine Lavoie qui était très intéressant, une belle fraîcheur, pas nécessairement quelque chose d'extrêmement notable, mais d'une belle délicatesse là, avec des petites effluves là, de fruits exotiques, d'agrumes un peu de ce côté-là. Donc un blanc très simple tout en fraîcheur. Beaucoup aimé là, ce côté justement un petit peu fruit que ça apportait. Très belle bouteille qui a gagné quand même là, plusieurs prix là, au fil des années. Le domaine de la voile qui est dans la ville de Rougemont. Là, il y a beaucoup de très beaux vignobles qui ont, ainsi que cidrerie là, Rougemont, évidemment, très reconnu pour ses pommes, mais énormément de vignobles aussi là, dans cette ville et cette région-là. Donc, pour le vin blanc du domaine Lavoie, une très belle bouteille, là, très intéressante là, à avoir toujours sous la main pour avoir un beau blanc du Québec. J'y vais là, avec un 3,5 sur 5. Une très belle bouteille. Et aussi, là, on commence à voir là, certains vins qui sont disponibles là, en canette de 250 ml. Là. C'est des vins quand même là, d'une certaine qualité, dont celui-ci. Donc, à la SAQ ou directement au domaine, vous pourrez vous procurer ce vin blanc en canette autant qu'en bouteille. Pour la deuxième bouteille, c'est la bouteille de la compagnie de Bob le Chef. Là. Donc, c'est la gamme de vins qu'il a lancé, qui est le Barbec à Bob le Chef. Là. Il a sorti quelques saveurs différentes. Bob le Chef là, qui a fait sa renommée à travers les vidéos Internet, là, qu'on voit maintenant un peu partout dans tous les médias, beaucoup dans l'émission de télé maintenant. Et puis, il a sorti sa propre gamme de vins. Avant, je pense qu'il était là, porte-parole pour les vins bout en train là, qu'on voyait en épicerie. Il a maintenant sorti là, dans la même ligne de pensée sa propre ligne de vins. Dans ce cas-ci, c'est des vins qui ne sont pas faits au Québec, mais bon, ça reste quand même là, une figure de proue là, au niveau de la restauration là, et de l'alimentation au Québec. Donc, je me suis dit là, que je vais me permettre un petit écart là, à ce niveau-là là, pour quand même parler là, d'une business d'ici. Donc, le vin blanc de Bob le Chef, là, c'était le Chardonnay, une bouteille là, qu'on a pris à l'épicerie. Je pense qu'il n'est pas disponible à SAQ. Là, c'est vraiment là, d'avoir des vins abordables. C'était vraiment ça son but. Dépendamment, évidemment, des prix d'une épicerie à l'autre, là, ça va être une bouteille de format traditionnel, 750 ml, qui va varier là, entre 12 et 16 $ selon où vous allez la prendre. Une bouteille à 12,5% d'alcool. C'est officiellement là, un vin qui vient d'Italie. C'est un vin là, qui était vraiment très, très léger. Au nez, là, il y avait une légère petite odeur là, qui, d'arôme là, qui allait chercher vers, ils disent, le chevrefeuille. Je n'aurais évidemment pas mis le doigt exactement là-dessus, mais on avait une certaine odeur un peu végétale, un peu herbacée. On y allait avec une petite pointe aussi là, au niveau de l'agrumes, du citron. En bouche, là, on avait quelque chose de vraiment très simple, très fruité, très léger. C'était certainement pas le vin le plus goûteux. C'était certainement pas un désastre non plus. Je pense que c'est quand même là, une gamme de vins qui a sa raison d'être. C'est là pour avoir là, un petit vin de semaine ou un petit vin rapide. Quand on s'y connaît pas nécessairement, les vins d'épicerie, là, des fois, c'est des hit and miss. On veut pas prendre de chance, on connaît pas les maisons. Certains vins, comme je dis, ne sont pas distribués à la SAQ, donc c'est plus difficile d'avoir des informations. Malheureusement, les commis d'épicerie, évidemment, ne sont pas trop formés pour nous donner de l'information. Donc, on y va un petit peu avec un educated guess. Là. On tire un 30 sous dans l'air et on choisit une bouteille. Fait qu'on se dirige là, vers des noms qu'on connaît au Québec. C'est tout à fait un vin correct. Évidemment, là, ce ne sera pas un grand cru, mais c'était pas du tout le but de cette gamme-là. Donc, un vin très simple, très léger. Je ne pense pas qu'il va y avoir quelqu'un qui va dire qui n'aimera pas ce vin-là, tout simplement. Mais je pense pas que ça va être le vin favori de personne non plus. Donc, c'est tout simplement là, un sure shot. Vous allez avoir un vin rafraîchissant, un beau vin blanc d'été avec une légère rondeur. Ça reste quand même un Chardonnay. Donc, mis à part ça, il n'y aura pas de défaut. Il va être bon pour tout le monde. Si vous êtes mal pris, justement, là, la SAQ est fermée, puis vous voulez aller à l'épicerie là, avant que toute la famille arrive parce que le vin commence à descendre trop vite, ça va être un sure shot. Là. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas personne là, qui va pas aimer ce vin-là. Donc, une valeur sûre, mais quand même une simplicité voulue. Donc, tout à fait honnête. Je pense que ça va être le terme le plus précis pour décrire ce vin-là. Donc, le vin blanc Chardonnay de Bob le Chef, là, de la compagnie Le Barbec à Bob le Chef. J'y vais avec un 3 sur 5. Un sans faute, là, mais rien de grandiose. Mais encore une fois, là, c'est clairement pas le but de cette gamme-là. C'était tout simplement un vin tout en simplicité, bien fait qu'à la plaire à tout le monde. Donc, pour le Chardonnay de La Barbec à Bob le Chef, un 3 sur 5. Comme troisième vin, on va aller avec un rouge. C'est un vin de mon Brome-Missisquoi natal, là, dans les cantons de l'Est de la maison Côte d'Ardoise de Donham, là, c'est le vin rouge d'un millésime 2020. C'est un vin en vente à la SAQ au coût de 18,80$. C'est un vin à 11,87% d'alcool officiellement sur la fiche de la SAQ. Évidemment, sur la bouteille, on arrondit ça tout simplement à 12% d'alcool. Un vin rouge là, qui est fait de 3 variétés de cépages différents, à 62% là, de Frontenac, 21% de Maréchal Foch et de 17% de Chaunac. Donc, ce que le domaine d'Aroise a à dire sur leur propre produit, c'est que c'est un vin issu des plus vieilles vignes exploitées commercialement au Québec. Ces vignes ont été plantées en 1980 et ne produisent plus qu'une petite dizaine de grappes par plant, ce qui apporte un terme de qualité, une richesse aromatique difficilement comparable avec des vignes plus jeunes. Harmonieusement boisé, d'une bouche souple et bien structurée aux arômes de fruits mûrs, notre vin s'achève sur une belle finale vanillée. Se marie bien avec les viandes rouges, le camard, les pâtes et les fromages. C'est effectivement là, un vin là, qui allait chercher dans beaucoup de fruits, donc un côté plus cerise, prune, des genres d'épices sucrées, une légère pointe quasiment là, de tabac, une acidité quand même dominante, un vin qui était très sec, un vin bien balancé, là, côté boisé, corps moyen, vraiment là, un vin quand même tout en délicatesse. On recommande de le boire là, entre 15 et 17 degrés, donc ça revient à peu près là, à ce que je t'ai dit tantôt avec le truc des 30 minutes. Beaucoup apprécié ce vin-là, j'avais déjà entendu que c'était, ça prenait à peu près là, une quarantaine d'années pour que des vignes arrivent là, à une certaine maturité. Ce qui revient un peu là, à ce que je t'ai déjà dit dans un autre épisode, que le vin rouge au Québec n'est plus ce que ça l'a déjà été quand j'ai commencé ma carrière. On parle quand même de la fin des années 90. Les vignes qui avaient été plantées au Québec étaient quand même encore assez jeunes. Là, donc, il y avait très peu de vins là, qui avaient ce niveau de qualité-là, même probablement pas du tout. Il y avait quelques blancs qui sortaient du lot, un petit peu de rosé. Et au niveau du rouge au Québec, on n'était pas du tout là. Là, je pense qu'évidemment, là, ça fait quand même 25 ans de ça. Donc, on est justement rendu avec des vignes qui vont avoir une quarantaine, une cinquantaine d'années. Donc, ça commence à donner des vins là, qui commencent à être beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus fin. Donc, je pense que c'est justement ces vignes qui sont arrivées à maturité. C'est le cas ici là, pour ces vignes-là des Côtes d'Ardoise, mais ça doit être le cas pour énormément de vignobles là, au Québec. C'est certainement pas les seuls qui ont planté leur première vigne il y a plusieurs années. Donc, avec ce niveau de maturation-là, on arrive avec des vins rouges qui peuvent vraiment là, compétitionner là, sur l'échelle internationale. C'était pas nécessairement le cas, comme je te dis, il y a 25 ans. Donc, cette espèce de faux stigma que les vins du Québec, là, c'était un peu boboche. On n'est vraiment plus là, là. Il y a vraiment eu un énorme travail qui a été fait. Des vignerons qui ont travaillé fort là, avec l'amour du vin pour donner des super beaux produits. Le vin rouge du domaine des Côtes d'Ardoise 2020 là, vient en témoigner. Une belle richesse, des beaux fruits, quelque chose de beaucoup plus rond là, que ce qu'on n'a jamais vu avant ça. Là, on était dans le beaucoup plus simple. On était dans des styles de vin qui étaient à la limite là, du Beaujolais, là, très, très liquide, très aqueux. Là, on a beaucoup, beaucoup plus de punch, beaucoup plus de maturité dans les saveurs. Ça fait des trucs super intéressants. Beaucoup aimé là, le vin rouge des Côtes d'Ardoise. Donc, j'y vais là, avec une note de 4 sur 5. Un très beau vin rouge, comme je te dis, qui est disponible en épicerie. Évidemment, le prix va peut-être varier un petit peu de celui de la SAQ, mais ça donne une chance de mettre la main là, sur un super beau produit québécois. Pas du tout gênant. Là. Donc, le vin rouge millésime 2020 des Côtes d'Ardoise de Donham. Super beau produit à 4 sur 5. C'est ce qui termine le premier bloc des vins pour aujourd'hui. Pour le deuxième bloc, je vais te parler de spiritueux. On va aller un petit peu dans toutes sortes de choses. Là, tout d'abord, je vais te parler d'un gin. Je vais ensuite te parler d'un whisky et ensuite d'une absinthe faite au Québec. Oh oui, une absinthe! Alors, on commence tout de suite avec le gin. Le gin que j'ai trouvé cette semaine, c'est le gin Portage Plage, un gin de la Maison de Futaille. C'est un gin là, qui est évidemment à 40% d'alcool, qui est vendu à la SAQ dans des bouteilles de 750 ml au prix de 39,50$. La maison là, de Futaille qui, évidemment, est installée à Montréal. Une très belle découverte. Là, ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas tombé là, sur un aussi beau coup de cœur. Au nez, le gin là, nous amène avec une intensité aromatique là, de goyave là, qui est quand même prédominante. C'est accompagné de notes d'épices douces là, et de lime fraîche. Au goût, là, c'est équilibré et complexe. En premier lieu, là, on croque littéralement dans le goyave bien juteux. Et après, on découvre là, les baies de genièvre, évidemment, la saveur classique du gin, qui viennent là, juste assez là, rehausser tous les arômes. La petite finale en fraîcheur là, avec une belle persistance de lime et une pointe de basilic. Vraiment là, un super bel amalgame. Le côté justement là, un peu juteux, floral de la goyave, là, qui est un fruit quand même assez parfumé. Ensuite, évidemment, là, les saveurs très claires là, de genévrier et ce côté là, acide et à peine amer là, de la lime là, qui vient finir avec la fraîcheur de la feuille de basilic fraîche en arrière. Vraiment, là, c'est un amalgame de produits. Quand j'ai lu les saveurs, c'est mon amoureuse qui est arrivée avec ça à la maison. Quand je lisais les saveurs, j'étais comme, oh, c'était intriguant. Je me trouvais que c'était un peu, que ça allait un peu partout, là, à goyave, lime et basilic. Finalement, là, l'intelligence de l'assemblage des saveurs de ce gin-là là, m'a vraiment plu. C'est vraiment un des super beaux produits là, au niveau gin. Un très beau produit là, de la Maison de Futaille de Montréal. J'ai vraiment là, tendance à le mettre à la limite d'un coup de cœur. C'est vraiment agréable. C'est fruité sans être un côté. Des fois, les gins fruités vont aller un petit peu trop dans le fruité, un petit peu trop dans le sucre. C'est peut-être pas nécessairement l'idéal. Là, vraiment, là, autant que quand je le buvais sur glace, que de le faire là, en gin tonic. Je trouvais ça super intéressant. Donc, le gin portage plage là, de la Maison Futaille là, qui est disponible à la SAQ pour 39,50$. Un 4,5 sur 5. Vraiment, là, un super beau gin. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'assemblage, la fraîcheur de ce gin-là. Pour le deuxième produit, quelques fois que je te dis là, que je suis à la base un amateur de bourbon, là, ce whisky américain. Évidemment, là, c'est beaucoup plus rare au Canada, du moins au Québec, d'avoir là, des distilleries qui font du whisky, mais ça commence à sortir. Là. Je te dis que j'ai une information que j'ai eue là, cet été là, qu'il y aurait des lois ou un certain processus que les distilleries ne pouvaient pas faire du whisky là, avant d'avoir été en business pendant quelque chose comme 7 ans. Là, donc, je pense que c'est un petit peu pour ça là, qu'on commence maintenant à avoir des whisky québécois. Je suis tombé sur un produit que je ne connaissais pas du tout, ni même la maison. Une simple add-on, là, j'étais là, dans une SRQ à Brassard, et je suis tombé sur ce produit-là. Le Whisky Pub Law 66-66. Ça vient là, de la microdistillerie L'Auberger à Montréal. Très peu d'informations, là, j'ai vu là, qui faisait aussi là, du rhum. Ce qu'ils ont à dire là, sur leur produit, c'est qu'en janvier 1920, la prohibition frappe les États-Unis et le Canada. Seul le Québec fait bande à part. Alors, un réseau de contrebande d'alcool contrôlé par une poignée de bootleggers québécois était si étendu que même Al Capone avait abandonné son projet d'expansion. Des centaines de milliers de caisses de whisky ont alors transité par le Québec vers les États-Unis jusqu'à la fin de la prohibition en 1933. C'est un produit, là, évidemment, 40 % d'alcool en bouteille de 750 ml qui est en vente à la SAQ au coût de 40,25$. Une très belle découverte là, au niveau whisky, tant qu'à moi, on était vraiment là, dans l'esprit du bourbon. Il y avait ce côté justement là, très grain, autant sweet. Pas trouvé beaucoup d'informations, là, mis à part les informations de base là, qui sont à la SAQ sur ce produit-là. Mais vraiment, là, ça a été un petit coup de cœur. Là. J'en avais goûté quelques-uns là, qui ont été faits au Québec. Je trouvais que ça manquait peut-être là, un peu moins de... C'est un peu moins dans mes cordes. Là. Peut-être qu'on n'était pas du tout dans ce que j'apprécie nécessairement. Il avait peut-être été essayé d'aller un peu plus vers la famille du scotch sans avoir nécessairement là, peut-être le raffinement ou la qualité des grains pour avoir là, un équivalent là, de bon scotch. Donc vraiment, là, avec cette mentalité de faire un whisky qui était dans la lignée des whiskies américains là, style bourbon, j'ai vraiment fait là, la découverte d'un super beau produit à l'œil là, un petit peu plus blond. Là, justement, Les bourbons que je vais apprécier vont être plus vers le caramel, un côté un petit peu plus foncé, là, à la limite couleur sirop d'érable. Là, on était un petit peu plus pâle. Là, on était à la limite côté miel, là, donc beaucoup plus pâle. Ça donnait quand même un super beau produit que j'avais l'impression qu'il était quand même dans cette caramélisation-là, probablement du grain ou du vieillissement. J'avais une saveur de presque beurré, caramel, quasiment butterscotch. Là. On était à la limite d'un profil de saveur là, des bonbons Werther's Original, là. Cette espèce de crémeux beurré caramel-là. Évidemment, ça reste un bonbon, là, c'est pas une liqueur, mais au niveau là, des saveurs de base, on était vraiment là, ça me rappelait beaucoup le Werther's Original, donc je trouvais ça super intéressant. On avait vraiment été chercher un côté très beurré, très caramel, très, très sweet. Donc vraiment, ça faisait un produit super intéressant. Ça se boit super bien. Moi, personnellement, je suis du style bourbon on the rocks, tout simplement. Mais même si tu veux aller mixer quelque chose, il va avoir un beau profil de saveur pour des cocktails. Donc vraiment, un super beau produit, une belle découverte là, qui rentre beaucoup là, dans mon profil de saveur à moi. Ça fait longtemps quand même là, que j'attendais de mettre la main sur un produit québécois là, qui me rappellerait les délicieux bourbons là, du Kentucky et du Tennessee que j'appréciais beaucoup. Là, vraiment, j'étais vraiment, même si à l'œil, comme je te dis, qui était beaucoup plus pâle, beaucoup plus blond, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à avoir une exécution fantastique là, avec la qualité des produits qu'ils ont utilisés au niveau de la finition, de l'affinage, du vieillissement. Ils ont réussi à trouver quelque chose de très, très intéressant. Un petit coup de cœur pour moi, vraiment. On a pas mal trouvé tout ce qu'on voulait. Moi qui ai toujours là, une bouteille de bourbon à la maison, c'est clair là, que je vais régulièrement m'assurer d'avoir ce produit québécois là. J'espère qu'il va en avoir d'autres. C'est de très bonne augure, là, vraiment. Si on est capable de s'en aller vers une qualité de whisky comme ça, là, je pense qu'on va être des très, très beaux producteurs de whisky au Québec. Donc, le Whisky Pabla 66-66, honnêtement, un gros coup de cœur, là, ça va être un sans faute. J'y vais avec un 5 sur 5, très content d'avoir enfin trouvé là, un whisky qui me rappelle les délicieux bourbons américains faits au Québec. Un très, très beau travail de la maison Louberger de Montréal. Un gros coup de cœur, là, un whisky qui rappelle les superbes bourbons américains faits au Québec. Le troisième, oh, c'est le bizarre de la famille dans ce bloc-là. C'est de la distillerie Mariana. C'est fait là, à Louisville. L'absinthe de la compagnie Balzac à 70% d'alcool. Oui, évidemment, là, on est dans l'absinthe. Là, on est quelque chose qui fesse pas mal. Une bouteille de 500 ml en vente là, à 47,50 $. Je vais être bien honnête avec toi, mon expertise en absinthe est ce qu'on pourrait appeler, très honnêtement, à fuck all. J'avais jamais bu ça de ma vie. Évidemment, l'absinthe était cette espèce d'alcool prohibé là, parce que c'était fait avec un dérivé d'opiacé, puis c'était quelqu'un qui amenait ça dans ses valises de l'Europe. Là, donc, c'était pas légal tout simplement. Fait qu'on savait que ça existait, mais on savait pas que ça était fait légalement. Là, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu démocratisées et que ça a été un peu mieux fait avec les années. Mais c'est même rendu là, qu'on en a une faite au Québec. Donc, j'ai dû me renseigner pour savoir exactement comment boire ça là, de façon optimale. Et j'ai trouvé des renseignements qui m'ont rappelé un documentaire ou un segment télé que j'avais vu là, il y a de cela plusieurs années qui expliquait comment boire l'absinthe. Donc, la façon de boire était de le mettre dans un verre et d'avoir là, un cube de sucre. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli une cuillère remplie de sucre et de verser délicatement de l'eau très fraîche sur le sucre pour que ça tombe dans l'absinthe. Et ce que ça faisait, c'est qu'une fois que l'eau sucrée tombait dans l'absinthe, qui est un alcool de couleur verte, ça devient un peu comme un peu foggy. Là. Fait que t'as l'impression d'avoir une espèce de liqueur, de crémeuse, de crème de menthe. Là, à l'œil, là, ça a l'air là, quasiment de la crème glacée au pistache fondu. Mais on n'est pas pantoute là au côté ni olfactif, ni au niveau des saveurs. Je te dirais que c'est un peu une espèce d'hybride entre le pastis, cette liqueur là, très populaire, pas de liqueur, mais de l'alcool, très populaire du moins là, dans le sud de la France, là, qui est très anisé, donc très réglisse noire, et de la chartreuse, là, qui est aussi un alcool amer, vert, là, qui est très herbacé. Je te dirais que c'est un peu un mariage des deux. Tu as un petit côté légèrement sucré anisé du pastis et le côté herbacé de la chartreuse. Moi, j'ai pas de problème avec le pastis, mais la chartreuse de côté très amer de ça, je m'attendais pas à aimer ça. Finalement, j'ai trouvé ça intéressant. Encore là, comme je te dis, je peux pas me baser sur mon grand passé de buveur d'absinthe. J'avais jamais eu ça de ma sainte vie. J'ai pas été si fin que ça dans ma vie. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant. C'est saveur quand même assez forte, assez dominante. On s'entend le côté anisé, le côté réglisse noire. C'est pas quelque chose qui est délicat d'aucune façon. Donc, c'est une saveur qui est extrêmement forte et violente. Et de l'autre côté, le côté amer, herbacé et zéro délicat non plus. Donc, ça fait deux saveurs extrêmement violentes ensemble. Je pense que je comprends l'idée de mettre de l'eau et du sucre pour le diluer et essayer d'arrondir ça un peu. Ça fait quand même un verre qui se boit bien, mais c'est quand même extrêmement rough. Là. Je pense pas que je me vois très très mal d'avoir une soirée là, à boire de l'absinthe. Tu dois filer comme si Gros Maurice était venu récupérer l'argent que tu n'avais pas payé et t'es magané que yable le lendemain. Je recommande pas de virer une brosse à ça. C'est quand même 70% d'alcool. Et j'imagine que même si tu mets de l'eau et du sucre dedans, ça l'adoucit. Mais comme je te dis, là, ça doit rentrer au poste en sacrifice sur le long. Mais c'était quand même intéressant. Une belle expérience. Moi, j'ai beaucoup apprécié découvrir l'absinthe. Est-ce que ça vient devenir un de mes alcools favoris? Vraiment pas, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ça. C'est sûr que je vais en boire un petit verre de temps en temps. Mais il y a quand même de quoi à faire et c'est un produit vraiment là, 100% québécois. Là, donc, de boire un produit qui, dans ma jeunesse, c'était quelque chose de prohibé et qui naît là, de la limite des fables. Puis d'avoir un produit là, fait en toute légalité et de belle qualité au Québec, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, encore une fois, je vais te donner une note avec mes goûts personnels à 1000% parce que j'ai zéro background d'absinthe. Donc, pour le produit de la distillerie Mariana, le Balzac Absinthe, j'y vais avec un 3.5 sur 5. Quelque chose d'intéressant, mais quelque chose de quand même spécial avec des saveurs extrêmement fortes. Par contre, je pense que ça peut faire quelque chose de très intéressant là, à faire goûter là, si tu as un ami ou un beau-frère qui veut goûter quelque chose de nouveau. D'après moi, tu risques de le sortir de ses shorts avec la distillerie Mariana et leur absinthe Balzac. Et c'est ce qui termine le deuxième bloc pour aujourd'hui. Pour le troisième bloc, je vais te parler des nouveautés là, de la microbrasserie Rostal et Vignoble Coblotte. C'est les deux là, au même endroit. Ce petit trésor caché dont je t'ai déjà parlé dans quelques autres épisodes, situé à Saint-Bruno de Montarville. Là, ils font absolument là, aucune publicité. Ils n'ont pas de produits sur les tablettes. Ils n'ont pas de produits à SAQ. Ils vendent tout eux-mêmes là, et c'est vraiment là, une petite merveille. Donc, il y a eu quelques nouvelles côté bière et quelques nouveautés côté gin. J'en ai profité, là, mon ami Max, que je salue, qui est venu faire un tour là, à la maison. Et bien, on en est prendre là, un verre. Et j'ai fait des réserves là, pour déguster les dernières nouveautés de Rostal et Vignoble Coblotte. Tout d'abord, là, on a été prendre un verre de bière là-bas. La première bière que j'ai goûtée, un type de bière que je ne connaissais pas du tout. Tout d'abord, là, c'était la bière Hanovrien. Donc, c'est une Emmerbier, une bière de 6,5% d'alcool et 28 IBU. Quelque chose de très intéressant. Donc, c'est une bière vieillie en fût de vin rouge. Évidemment, là, du vignoble Coblotte. Tout ce qu'ils font, là, c'est de réutiliser les produits qu'ils ont au maximum. Une bière très sèche, avec une certaine légèreté. Il y avait comme une espèce de mélange de bière de blé et une saveur de Porto sans avoir le gras. Donc, on était vraiment là, dans deux extrêmes de saveur. Là, le côté frais, céréal, léger là, d'une bière de blé et d'avoir le côté rond de fruits qu'on retrouve dans le Porto, mais sans avoir vraiment le sucre et la caramélisation. Donc, on était vraiment dans des saveurs complètement opposées, mais qui avaient trouvé le moyen de faire marcher. Il y avait justement là, ce côté là, de petites saveurs de vin rouge, donc vraiment là, de raisin qu'on avait à la fin dans la bière. Ça lui donnait vraiment un cachet particulier. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Vraiment, on était vraiment dans quelque chose pour lequel que j'avais aucun comparable. C'est vraiment là, typique là, de ce qu'ils font là-bas. Ils font leurs affaires à eux là, et puis ils ne se cassent pas la tête à savoir là, est-ce que c'est ça qui est populaire présentement puis est-ce que c'est ça que les gens veulent. Là, ils s'arrangent pour créer quelque chose à leur façon, avec leurs moyens du bord. Donc, c'était vraiment très intéressant. Un type de bière que je ne connaissais pas du tout et cette espèce d'amalgame de saveurs-là surprend beaucoup au début, mais on apprécie vraiment là, ce côté complètement là, qui nous sort de nos shorts, là, carrément. C'était pas comparable avec rien, mais c'était bon. Fait que c'est toujours super intéressant. Une très belle bière, là, la Hanovrien là, de Rostal Brasserie de Saint-Bruno de Montarville. J'y vais avec un 3.5 sur 5. La deuxième bière que j'ai goûtée était la celle pour laquelle on s'était déplacé sur place. On avait vu une pub sur les médias sociaux et on savait là, que c'était fait en très petite quantité. C'est la Porter Baltique, la Frisson, édition spéciale. Une Porter Baltique là, donc à 13,5% d'alcool et 21 IBU. C'est une bière là, qui a été vieillie un an en barrique de chêne français. Fortifié au brandy du vignoble Coblotte. Elle dégage des arômes suaves de caramel anglais, le style taffy, avec une pointe de noisette et son côté fortifié rappelle des délicieuses notes de café vanillé. Vraiment, là, j'ai pogné de quoi. Comme on dit, c'était vraiment très, très, très spécial. Super belle exécution. Ce côté très riche, très crémeux. Vraiment toffee. Il y avait une légère pointe, quasiment mochaccino, donc un petit peu café, un petit peu cacao. Pas d'amertume, très bien exécuté. C'était riche, c'était bon, c'était crémeux. C'était vraiment là, spécial. Écoute, on s'est mis à rigoler assez vite. 13,5% d'alcool pour un verre de bière. On s'est rendu compte les deux qu'on avait peu ou pas manger. Il était rendu à peu près 4 heures dans l'après-midi quand on s'est pris un verre de bière à 13% d'alcool. On s'est mis à rigoler comme deux imbéciles. Donc vraiment, là, quelque chose de tout en douceur qui cache un 13,5% d'alcool. C'est dangereux parce que c'est excellent. Vraiment, là, comme je te dis, ce côté, il trouve un moyen sans que la bière soit vraiment crémeuse et riche d'avoir cette saveur qui est vraiment dense, tout en ayant là, vraiment toutes ces petites saveurs-là, donc la pointe de toffee caramélisée, la petite pointe de mochaccino, donc un petit peu de café, un petit peu de cacao, la saveur là, du brandy là, qui vient donner là, une sweet rondeur dans tout ça, particulièrement apprécié. La bière, là, en fait, c'est pas Frisson, je viens de voir, là, c'est Frisson, il y a un S, donc c'est probablement là, toutes les appellations ont toujours des noms alsaciens, donc je viens de me rendre compte, j'ai probablement scrappé un mot alsacien, je m'en excuse. Donc la Frisson, cette merveilleuse porter baltique vieillie en chêne français et fortifiée au brandy là, du vignoble Coblotte, une petite merveille avec ses douces arômes. Ça va être, encore une fois, un des points forts de l'année. Ils vont avoir beaucoup de points forts de l'année là, avec leur exécution et leur petite magie. Cette bière, j'ai marqué 4.25. Il faut que j'aille plus haut que ça, c'est trop fort. On y va à 4.5 sur 5. La fameuse Porter Baltique au brandy de la microbrasserie Rostal qui est installée là, au vignoble Coblotte. Ensuite, j'ai été là, acheter les deux bouteilles là, de gin nouveau là, qui ont été produits là, cet automne. Tout d'abord, celui qui a été produit un petit peu plus tôt cet automne, au mois d'octobre, le gin Lowenzan. Des noms alsaciens, j'espère que je ne les massacre pas. Ce qu'eux ont à dire là, sur leur premier gin, c'est tomber en amour avec l'un de nos nouveaux gins exclusifs. À mesure que les feuilles changent et que l'air devient plus frais, il n'y a pas meilleur moment pour savourer la chaleur du Lowenzan. Profitez de la saison avec une gorgée de notre gin exclusif, fait en petits lots élaborés à partir de notre propre raisin, ici même au vignoble Coblotte. Le Lowenzan est un alcool fait à partir de nos propres raisins, reflet de l'engagement de notre vignoble envers la qualité. Le genévrier, l'élégance classique dans chaque goutte, le pissenlit, une touche de délicates notes florales, et la cannelle, une étreinte chaleureuse et épicée pour les soirées fraîches. C'est disponible seulement au vignoble comme tous leurs produits. vraiment un gin super intéressant. C'est des bouteilles de 500 ml qui sont vendues encore une fois seulement au comptoir du vignoble, là, au Grand Boulevard de Saint-Bruno de Montarville, au prix de 40$. Un gin très intéressant, il y a une espèce de légèreté et ensuite vraiment là, c'est le côté de la chaleur de la cannelle. Au nez, tu as l'impression d'avoir une tarte aux pommes bien chaude, là, faite par grand-maman. Cette espèce de chaleur de la cannelle fraîche ainsi que tous les arômes. Personnellement, je ne suis pas ultra cannelle. Fait que c'est peut-être celui-là qui a été un petit peu un setback dans mon cas. Mais sinon, là, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié les saveurs, la délicatesse. Leur premier gin que j'avais goûté était un peu plus rough. Il y avait des saveurs un peu plus floral, un peu plus végétal. Je trouvais que ça cognait. C'était intéressant. J'ai bien aimé. Mais c'était un petit peu plus tough. Là, on a été chercher quelque chose de beaucoup plus doux. Et cette espèce de saveur chaude de la cannelle qui a été enrobée. On goûte quand même bien le genévrier, l'épice là, traditionnelle là, qu'on développe pour le gin. Donc vraiment, un super beau produit. Encore une fois, des saveurs qui nous sortent de nos shorts. C'est intelligent, c'est différent et ça marche. Donc, un super beau produit. Là. Une autre raison de vous rendre au Vignoble Cobelotte là, et de vous faire des réserves pour faire découvrir des choses spectaculaires pendant le temps des fêtes. Donc, le gin Lowenzan, j'y vais avec un 4 sur 5. Quelque chose de différent avec une pointe de cannelle. Ça va être super intéressant. Très, très, très le fun là, comme produit. Le deuxième gin là, qui était tout frais sorti quand j'étais faire un tour au mois de novembre, c'est le gin Weib Blumkin. Alors, ce qu'eux ont à dire, c'est que leur nouveau gin, là, quand l'élégance rencontre l'authenticité. Au Vignoble Cobelotte, nous croyons en la beauté de la simplicité. Nos spiritueux, élaborés avec une touche de l'âme alsacienne, célèbrent l'authentique, le sans-frioriture et la pureté. Notre nouveau gin, le Weib Blumkin, est une création à base de notre alcool de raisin avec l'anis et la fleur de cerisier sauvage comme aromate. Dans un monde qui réclame souvent la complexité, nous trouvons la richesse de la beauté brute de notre terroir. Découvrez le pouvoir de la simplicité où chaque goutte de ce nouveau gin rappelle que la véritable sophistication réside dans la simplicité. Mais je suis tout à fait d'accord avec eux et c'est vraiment un essai réussi. Beaucoup aimé là, l'assemblage de saveurs pour ce gin-là. Là, on retrouve évidemment encore une fois le genévrier et les saveurs là, un peu plus là, végétal là, qui était très distinctive à leur premier gin et celui-là là, qui est évidemment encore une fois fait avec le marque de vin avec une double distillation fragmentée avec des fleurs de cerisier sauvage et d'anis étoilé. La saveur de la cerise était là et c'était vraiment particulier. J'ai pas souvent vu, même je pense que j'ai pas vu du tout cette saveur-là de cerise avec un léger côté boisé. Très, très, très bien infusé, là, très, très, très bien dosé. Et le côté de l'anis étoilé, donc on revient chercher ce côté anisé-là, donc de réglisse noire, qui est délicat, évidemment, ça ne devient pas un pastis, encore moins là, l'absinthe, comme je te parlais tantôt. Mais non, vraiment, juste le côté avec la pointe d'anis qui amène ce petit côté réglisse noire, cette saveur-là boisée de cerise qui se mélange bien, un gin vraiment plus clean, plus léger, avec une saveur que je trouve qui, ça va dépendre probablement des goûts. Je trouve que le côté de l'anis est beaucoup moins dominant que celui de la cannelle, là, qui est vraiment, personnellement, je trouve que c'est une saveur qui est un peu plus envahissante. C'est peut-être juste une saveur que j'apprécie un peu moins personnellement. Donc, je trouvais que l'amalgame de cette bouteille-là frappait vraiment là, dans mes cordes là, quelque chose de très, très beau. J'ai pas beaucoup de défauts à y trouver. Là. J'ai vraiment eu, encore une fois, un coup de cœur là, pour cette bouteille-là. Vraiment, là, ce qui se fait au Vignoble Cobelotte et microbrasserie Rostal, les vins, les bières, les gins, les eaux de vie, les brandy, c'est des petites merveilles. J'adore qu'est-ce qu'ils font. À chaque fois que j'y vais, je leur dis, puis la madame part à rire parce qu'elle dit, tu dis la même chose à chaque fois. Je dis, oui, mais ça doit être parce que c'est vrai. C'est incroyable les produits qu'ils font et je peux pas croire qu'ils sont pas plus connus que ça. C'est vraiment un trésor caché. Donc, pour le gin, Weib Blumkin, j'y vais avec un 4.75 sur 5. Vraiment, cet assemblage de saveurs-là est vraiment beaucoup dans mes cordes. J'ai particulièrement apprécié. Et c'est ce qui termine le troisième bloc et l'épisode pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast Aliment Passion. C'était déjà l'épisode 93. On s'en va tranquillement vers l'épisode 100 et encore plus tôt, là, vers la revue de fin d'année. N'oublie pas là, de t'abonner au podcast. On est sur toutes les grandes plateformes, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. On est partout. Abonne-toi. Mets un 5 étoiles. Mets un commentaire quand tu l'écoutes. Partage sur les médias sociaux. Et je tiens à faire une petite note personnelle. J'ai été absent du podcast. Là. Le podcast n'a pas eu d'épisode de fin début avril à début mai. Il y a eu un long break là, entre les périodes 64 et 65. Je t'ai expliqué au retour à l'épisode 65 que c'était dû au décès subi de mon petit frère, que j'avais pas la tête du tout là, à faire des podcasts puis à travailler là-dessus. Et j'étais quand même content là, de recommencer. J'avais dit que je ferais un épisode en son honneur. Mon frère était un grand amateur des vins du Québec et a parcouru le Québec là, pour goûter des distilleries, des vignobles et tout plein de beaux producteurs. Donc, l'épisode 93 à la mémoire de mon petit frère Hugo. J'espère que tu as de la bonne alcool en haut. Est-ce que tu es mon grand? Je t'aime, bro, puis celle-là était pour toi. C'était Roger, ton crazy chef, qui te rappelle, faut arrêter de faire des recettes. Il faut cuisiner. Bye-bye.